Donc, c'est un plaisir, Toby Nathan, de vous recevoir ce soir. Je suis ravi. Nous allons pouvoir parler donc de votre dernier roman, La Société des Belles Personnes. Petit rappel d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes ethnopsychiatre. Vous avez été disciple de Georges Devreux. Vous avez écrit à ce sujet et à ce titre plusieurs essais, dont La Nouvelle Interprétation des Rêves en 2011. Et vous avez également écrit Ethnoroman en 2012 chez Grasset, qui avait obtenu le prix Femina de l'essai, où déjà on pouvait voir à la fois l'ethnopsychiatre et le romancier un petit peu cohabiter. On vous avait reçu également dans cette librairie en 2015 pour Filtre d'amour.
Oui.
Voilà. Et parmi les romans que vous avez écrits, il y a eu Ce pays qui te ressemble en 2015. Il est important de le citer parce que La Société des Belles Personnes, en quelque sorte, fait suite à ce roman. Et vous aviez écrit en 2018 également L'Évangile selon Youri. Et c'est très, très intéressant de citer vos différents romans parce qu'effectivement, nous retrouvons des thématiques assez communes et nous allons pouvoir avoir l'occasion d'en discuter ce soir. Alors, comme je disais, moi, je suis absolument ravi parce que j'ai dévoré votre roman. C'est passionnant, c'est fascinant. C'est une grande fresque historique. Vous avez ce talent magnifique de mêler historique, fictif et réel. Et c'est absolument fascinant. Alors, juste pour donner la trame, parce que tout le monde ne l'a peut-être pas déjà lu, nous retrouvons donc dans ce dernier roman ce personnage qui est un peu le personnage principal, donc Zohar Zohar. Qui est déjà le personnage de Ce pays qui te ressemble. Ça se passe en 1952. Le roman commence comme ça, lorsque ce jeune homme de 27 ans, Zohar Zohar, qui est un juif, expulsé d'Égypte, qui a tout perdu à cause des révolutions égyptiennes de 1952, arrive en Italie, fait une première rencontre avec une prostituée qui s'appelle Livia. Et à partir de là, vont commencer ces pérégrinations en Europe, surtout en Italie et surtout à Paris. Et l'aspect narratif du roman est extrêmement bien tissé, puisque cela commence comme ça, et il y a ensuite des flashbacks pour comprendre comment il en est arrivé là. Nous comprenons aussi très bien le contexte historique de l'Égypte de cette époque, ces fantômes aussi, ces fantômes, du nazisme qui le poursuivent toujours. Alors, avant d'aller un peu plus loin dans justement ce roman, peut-être, puisque j'ai cité l'année 1952, pouvons-nous revenir, avant de parler du personnage de Zohar, pouvons-nous revenir sur le contexte? Ça commence en septembre 52, mais déjà depuis janvier 52, il y a eu le grand incendie du Caire. Pouvez-vous revenir un petit peu sur cette année 1952 et sur tous les chambardements, en fait, ces révoltes qui ont fait que les Juifs ont dû quitter leur pays?
C'est une grande histoire, bien sûr. Quand Farouk est arrivé au pouvoir, le roi Farouk. Quand le roi Farouk est arrivé au pouvoir, c'était un magnifique jeune homme. Il avait 18 ans, il était grand, et il était beau, il avait les yeux clairs, il faisait du sport, il faisait de la boxe, il était magnifique. L'Égypte est tombée amoureuse de son roi. Et vraiment, ils adoraient ce roi qui, de plus, parlait l'arabe parfaitement, ce qui n'était pas le cas de son père, parce que c'est une dynastie qui n'était pas égyptienne, mais qui était kurde, en fait. Hein. Il parlait l'arabe parfaitement. Et en plus, il était croyant et il allait à la mosquée avec les fidèles, avec le peuple. Donc tout le monde l'aimait, en fait. Puis il s'est rendu compte, Farouk, qu'il n'avait aucun pouvoir, en fait. Parce que les Anglais étaient là, ils dirigeaient tout. Et évidemment, ils dirigeaient surtout les questions essentielles. De plus, quand la guerre est arrivée en 1939, 3 ans après son accession au pouvoir à Farouk, alors là, les Anglais ont tout pris et ont tout occupé. Et il y a eu une armée de, qui n'était pas une armée d'occupation, mais c'était, c'était l'armée de, du Moyen-Orient, des Alliés. Il y avait 1 million de soldats britanniques et alliés stationnés en Égypte. Donc Farouk ne pouvait, était le roi de rien, quoi. Et il ne pouvait plus rien faire. Il a commencé à perdre la tête, en fait. Et je pense qu'il a fait une névrose, une vraie névrose. Hein. C'était, il était tellement furieux de n'avoir aucun, comment, aucune influence sur les événements qu'il a commencé à agir sur son propre corps, à se donner tous les plaisirs possibles, les plaisirs de la chair et les plaisirs de la chair, en fait. Hein. C'est-à-dire, il a mangé plus que de raison et puis il organisait des orgies, etc. Au bout d'un moment, le peuple a commencé à être très mécontent de tout ça et a commencé à détester ce roi. De plus, en 1948, au moment de la déclaration de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, l'Égypte a pris la tête de la coalition qui partait combattre l'État d'Israël. Et il y a eu une défaite, et cette défaite a été cinglante, en particulier pour l'Égypte, qui pensait qu'elle allait faire une bouchée de ses va-nu-pieds qui étaient quasiment pas armés, etc. Et donc, Farouk a été humilié une seconde fois. Et nous nous trouvons donc à l'issue de ces deux événements. Et à ce moment-là, le peuple commençait à s'agiter beaucoup. Il voulait le départ des Anglais, le départ définitif des Anglais. Il ne voulait pas encore le départ de Farouk, mais ils étaient très mécontents de ce roi. Et il y a commencé à y avoir des manifestations, des violences, et puis ce fameux incendie du Caire qui a été quelque chose de terrible. Moi, je me souviens de ça. Hein. Au moment de l'incendie du Caire, j'avais 4 ans. Hein. Bon. Et donc, je me souviens, vous savez de quoi ? De l'odeur de brûlé. Je l'ai encore dans le nez, l'odeur de brûlé, qui rentrait par les appartements, parce que tout a brûlé. Tout a brûlé à ce moment-là. Et il y avait des agitateurs hein, qui animaient la foule, qui passaient pour détruire en priorité les biens des étrangers, les banques, les offices de tourisme, les grands magasins, tout ce qui appartenait à des étrangers, et tout particulièrement aux Juifs. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les Juifs qui étaient là, en Égypte, comme Zohar, le personnage de mon roman, il est là depuis la nuit des temps. Hein. Lui, il pense qu'ils ne sont jamais arrivés en Égypte, qu'ils sont là depuis toujours. Hein. Et parce que aussi longtemps que remonte la mémoire de leur famille, ils n'ont jamais bougé d'ici. Donc ils sont égyptiens. Mais du jour au lendemain, à cause de la création de l'État d'Israël, de cette guerre, ils deviennent comme une cinquième colonne, parce que les Juifs et les Israéliens, on pense que bah, ils ont parti liés, quoi. Et donc, ils sont une cinquième colonne en Égypte. Et là, ça commence à tourner vinaigre. Mais il faut bien comprendre que l'Égypte est un pays particulier. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une manifestation terrible. On brûle tout. Le lendemain, le calme s'est rétabli et on a l'impression que tout est rentré dans l'ordre. Mais on ne sait pas que le feu continue à couver sous la braise et que ça va recommencer, quoi. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais je vous ai donné une vision un peu...
début de réponse, parce qu'effectivement, ça, c'est tout à fait passionnant. Et dans les premiers chapitres de votre roman, ça, on le sent très bien. On rentre dans cette ambiance de terreur, de feu. Il y a effectivement les Britanniques. Il y a aussi donc les frères musulmans qui aussi sont là. Alors,
parlez plus près du micro.
Il y a aussi les Britanniques et il y a par ailleurs aussi les frères musulmans qui sèment aussi la terreur, voulant venger, je crois, l'assassinat du fondateur Hassan al-Banna.
Assassiné sous les ordres de Farouk. C'est Farouk qui a ordonné son assassinat qui est survenu en 1949, en fait. Et donc, les frères musulmans sont décidés à se venger. Hein. Et ils sont probablement à l'origine de toute cette agitation qui aboutira à l'incendie du Caire. Mais ils ne sont pas les seuls. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Zohar, donc ce jeune homme de 27 ans, fringant, qu'on imagine beau jeune homme, arrive en Europe. Ça, donc, c'est comme je l'ai dit, c'est au deuxième chapitre, en Italie, quand il rencontre cette Livia qui va jouer un rôle extrêmement important dans votre récit, elle lui demande d'où il vient et il dit d'un pays qui n'existe pas et qui n'existe plus, pardon. Voilà, en parlant de l'Égypte qu'il a connue. Et voilà. Et on se rend compte, et on a là aussi de très très belles chroniques égyptiennes, en fait, parce que c'est aussi ce contexte des révolutions de 1952 viennent casser une vie qui nous semble agréable, en fait, faite d'amusement, de cabaret, de poètes, de chanteuses. Vous citez Oum Kalthoum plusieurs fois, c'était aussi, nous semble-t-il, depuis les années 20, un pays qui vivait presque... d'une manière un peu insouciante
Insouciante, je ne crois pas. C'est-à-dire, il y a eu... C'était l'âge d'or de l'Égypte. Hein. Au moment de la royauté du roi Fouad, qui est le père de Farouk, en fait. Hein. C'était l'âge d'or, en fait. Hein. C'est-à-dire, il y a eu un développement assez extraordinaire de l'Égypte, à tel point qu'on considérait qu'Alexandrie était un grand port de l'Europe, hein, un grand port européen. Hein. On pensait que quand il y avait des tournées, par exemple, de la Comédie française, elle faisait sa tournée, elle s'arrêtait au Caire. C'était obligatoire. Il y avait des activités artistiques, intellectuelles, culturelles, très souvent française, d'ailleurs, parce qu'on parlait français en Égypte. Hein. À ce moment-là, c'est terminé, hein, plus personne ne parle plus français. On parlait français à cause de l'influence des écoles françaises, en fait, hein, qui avait été très importante pour le développement de l'Égypte. Et puis, du canal de Suez, la société du canal qui avait été française au départ, quoi. Et donc là, c'était très important également. La présence de la France était très importante à ce moment-là, en Égypte.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle... Pardon.
Écrivaine absolument incroyable, qui s'appelle Outek Kouloub, et qui publiait chez Gallimard, en fait, ses romans, chez Gallimard. On peut les trouver encore, hein, ses romans. Et sa vraie fonction, elle était chef de congrégation... comme celle que je décris, c'est-à-dire ces congrégations extraordinaires où les femmes dansent pour appeler les esprits, etc. Elle était chef de congrégation, ouais. Et en même temps, elle était écrivaine, et écrivaine très célébrée, quoi. Ouais. Ses livres étaient, à chaque sortie d'un de ses livres, il y avait une fête, il y avait plein de choses. Il y avait une activité culturelle et artistique d'un grand pays européen, entre guillemets, quoi.
Oui. Alors, vous avez effectivement cité ces confréries. On va en parler aussi, parce qu'il y a une dimension mystique également présente dans votre roman, comme dans vos romans précédents. Mais continuons un petit peu sur le personnage de Zohar, qui effectivement part d'abord en Italie. Ensuite, il part en France. Donc, on comprend aussi la proximité entre l'Égypte et la France. C'est peut-être la raison pour laquelle il décide de se rendre à Paris.
Oui, parce qu'il est francophone.
Qu'il est francophone, voilà.
Aussi, il est francophone aussi.
Voilà. Et alors, parallèlement à son arrivée en Europe, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on comprend aussi que une autre menace plane sur Zohar, qui est la menace donc du fameux Dieter Böhm, qui est cet ancien soldat nazi. Qui, comme d'autres nazis après la Seconde Guerre mondiale, ont infiltré les pays du Proche-Orient et qui, un petit peu de manière alliée avec les musulmans, ont également pourchassé les juifs en Égypte, entre autres. Il y a eu des des pogroms en Irak également et dans d'autres pays du Proche-Orient après la Seconde Guerre mondiale. Alors, effectivement, moi, je trouve ça passionnant de rappeler aussi cette, entre guillemets, hein, enfin, vous me corrigez si je me trompe, mais cette alliance entre les anciens nazis certains musulmans qui veulent justement pourchasser les juifs. Et il y a donc cet officier Dieter qui veut absolument retrouver la trace de Zohar, et Zohar veut retrouver la trace de ce Dieter. Il y a une confrontation, en fait. Alors, justement, j'en viens... Alors, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu. Ce Dieter Baum, comme ce Zohar, sont tous les deux des personnages fictifs.
Alors, bien sûr, oui. Ce sont des personnages totalement fictifs, mais Dieter Baum est très inspiré d'un certain nombre de personnages réels, parce que, comme vous le signaliez tout à l'heure, après-guerre, au moment de la dénazification, lorsqu'on poursuivait les officiers SS qui avaient participé à des massacres et qui avaient donc commis des crimes de guerre et qui risquaient des longues années de prison, au moins, il y avait des filières pour faire échapper ces officiers SS. Il y avait deux grandes filières qui passaient toutes les deux par le Vatican, en fait. Hein. C'était la plaque tournante, c'était au Vatican. Donc, ils arrivaient à Rome, et à partir de Rome, ils se dirigeaient soit vers l'Amérique du Sud, soit vers le Moyen-Orient. Et parmi ceux qui sont arrivés au Moyen-Orient, un grand nombre sont arrivés en Égypte, d'abord du temps de Farouk, et ensuite, après, encore beaucoup plus, du temps de Nasser. Or, ces officiers allemands, ces officiers SS, ils étaient toujours animés par la même haine à l'égard des Juifs. Ils voulaient terminer le travail, en quelque sorte. Ils avaient commencé le travail avec les Juifs européens, et ils voulaient terminer le travail avec les Juifs d'Orient, en quelque sorte. Et évidemment, ils ont mis leur savoir, leurs compétences au service des États du Moyen-Orient, et en particulier de l'Égypte. Donc, ces personnages sont des personnages tout à fait réels. On connaît leur nom. Il y en a eu, en Égypte seulement, il y en a eu près de 2000. Hein. Et donc, on connaît leur nom, on les a identifiés. Et celui qui m'a inspiré pour le personnage de Dieter Baum, bon, je peux vous donner son nom si vous voulez, qui était un peu farfelu, bizarre, et qui a fini fou, en fait. Hein. On s'appelait Van Liers, en fait. Hein. Et c'est de celui-là que je me suis inspiré pour la création du personnage de Dieter Baum. Donc c'est un personnage fictif, romanesque, mais en même temps très inspiré d'un personnage réel. Quant à Zohar, c'est Zohar qui m'a sommé d'écrire son histoire. Je ne sais pas qui c'est. Il s'est construit au fur et à mesure de mon écriture, si vous voulez.
Ça se sent, en fait, oui. Ça se sent qu'effectivement, il y a quelque chose. En fait, déjà, il y a peu de descriptions de ce personnage. Il dit peu de choses, mais il raconte beaucoup d'histoires. Effectivement, c'est un personnage auquel on s'attache et qu'on connaît très, très peu, en fait. Et c'est ça que je trouve assez fascinant. C'est que vous arrivez, dans votre roman, à mêler, donc, comme je disais, des personnages que vous inventez, avec donc des personnages historiques. Il était question du roi Farouk, il est question de Nasser.
Et il est vrai, hein, le roi Farouk.
Mais justement.
Non, mais il est tout à fait conforme à la réalité. C'est ça
qui est... Oui, oui, ce qui paraît complètement fou, parce qu'effectivement, alors on connaît pas forcément très très bien ce personnage. Enfin, moi, je le connaissais pas très très bien en tout cas. Et c'est vrai que les pages, il y a quelques chapitres, hein, qui justement parlent de sa démesure. Alors que justement le coup d'État, donc en juillet 1952, donc 6 mois après l'incendie du Caire, le coup d'État par Nasser est imminent. Farouk fait la sourde oreille et il préfère aller jouer ou aller rejoindre une jeune femme ou
oui.
Voilà. Donc il tout ça est complètement historique.
Il était exactement comme ça et on l'a prévenu jusqu'au dernier moment. On l'a prévenu et il aurait pu parfaitement arrêter le coup d'État. Il suffisait d'arrêter une vingtaine d'officiers supérieurs, quoi, qui n'étaient même pas très supérieurs. Hein. C'était des colonels et des commandants, en fait. Hein. Il suffisait de les arrêter, de les mettre en prison, et puis c'était terminé. Eh bien, il a laissé faire en se disant que c'est... Enfin, moi, je pense qu'il en avait marre du pouvoir. Il voulait partir, en fait. Bon, c'est ce que je pense. Hein. C'est écrit nulle part, oui, tout oui. ça. Mais c'est trop évident. C'est-à-dire, c'est se voyait tellement qu'il aurait pu arrêter le coup d'État, mais il ne l'a pas fait. Il y a bien une raison à ça.
D'ailleurs, Zohar connaît très bien Farouk, parce que quand je disais que Zohar doit quitter l'Égypte et qu'il a tout perdu, il était quand même gérant d'un club qui s'appelle le Rendez-vous des Pachins, d'une boutique qui vend du gin, de l'alcool bleu.
L'alcool.
Voilà, et en fait, Zohar et Farouk se connaissent. Alors, par contre, est-ce qu'ils sont amis? Parce que quand même, ils sont très, très différents.
Non, ils ne sont pas amis du
c'est
tout.
C'est ça.
Zohar redoute Farouk, parce qu'il redoute les sautes d'humeur de Farouk. Il était capable de vous mettre en tôle ou de demander votre internement dans un camp de concentration, en fait. Hein. Il était capable de faire ça, ou de partir avec vous faire la fête pendant toute la nuit. Il était capable de l'un comme de l'autre. Donc Zohar se méfiait beaucoup oui. du personnage. Par la suite, il va le retrouver. D'abord en Italie et puis ensuite en Suisse, où Farouk essayera de continuer sa vie de nabab, mais avec de moins en moins de succès, en quelque sorte. Hein. Et Zohar lui servira de chauffeur un long moment, et c'est comme ça qu'il commencera à se refaire un peu,
oui.
un peu d'argent pour recommencer sa vie, quoi.
Alors oui, justement, avant de parler de Zohar qui arrive à Paris et qui refait sa vie, revenons un petit peu sur le personnage de Dieter Böhm. Quand je disais que vous mélangez donc le réel et le fictif, effectivement, Dieter Böhm arrive à s'échapper de prison donc après la Seconde Guerre mondiale, et il est recueilli par des franciscains qui habitent à Rome.
Oui.
Et il me semble que ces personnages ont réellement existé, l'évêque
complètement.
Proche du pape Pie XII. Parce que ça,
complètement. C'est-à-dire l'évêque Uday. Dont je parle dans le livre, non seulement il a existé, mais il a été dénoncé par la presse italienne, en particulier la presse de gauche. On l'appelait le chanoine noir. On disait que c'était un nazi, etc. Il avait écrit des livres nazis hein, pendant la guerre, où il essayait de démontrer que le nazisme serait plus fort avec le catholicisme. Il fallait qu'il s'allie, en quelque sorte, pour gagner la guerre. Enfin, c'était quelqu'un de très sulfureux, on va dire. Hein. Et donc, c'est lui qui a organisé l'essentiel de la filière pendant des années, hein, avant on l'a jamais arrêté. Hein. On l'a jamais même inquiété. Il est mort... il avait perdu sa capacité de nuisance, mais il est mort sans être jugé en quoi que ce soit.
Et effectivement, le soldat nazi, Walter Rauf, je crois, est un personnage réel également.
Ah, Walter Rauf, oui, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Walter Rauf, c'est un personnage tout à fait oui, réel, qui a été, désigné par Himmler pour suivre Rommel. Et sitôt que Rommel entrait en Égypte, et c'est pour ça que la population juive d'Égypte était très sensible à toutes ces affaires, parce que Rauf suivait Rommel, sitôt qu'il rentrait en Égypte et qu'il prenait le pouvoir en Égypte, à ce moment-là, Rauf était chargé de déporter la population juive d'Égypte. Hein. Donc la population juive d'Égypte est passée à ça de l'extermination, quoi. Comme par exemple celle de Grèce, par exemple. Qui a eu le sort qu'aurait pu avoir la population juive d'Égypte, en fait. Hein.
Oui,
donc,
oui.
Ils le savent, tout ça, ils le savent. Et ce qu'ils ne savaient pas, les Juifs d'Égypte, et c'est un peu ce que je mets en valeur dans ce livre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le traitement que leur ont infligé les Égyptiens, qui étaient auparavant extrêmement... pas amicaux, mais disons, les relations étaient normales avec les Égyptiens auparavant. ça a totalement changé à partir du moment où les conseillers nazis sont arrivés en Égypte et qu'en fait, ce que ne savaient pas les Juifs, c'est qu'ils étaient victimes du nazisme après la fin du nazisme, en fait. Et c'est ça que j'essaye de mettre en valeur dans ce roman, que quelque chose qui n'est pas très connu, mais enfin, les historiens le savent. Hein.
Oui. Oui, mais justement, quand on commence à lire votre roman, on ne s'attend pas forcément à ça, puisque on comprend qu'il s'agit donc de l'Égypte en 1952, de ce jeune Zohar qui quitte l'Égypte après l'arrivée donc des frères musulmans. Mais le nazisme, en fait, est en filigrane au début, et puis il prend son importance au fil du temps. Et d'autant plus lorsque, et on y arrive, lorsque Zohar arrive à Paris, parce que là, il va rencontrer un peu des frères d'armes, des amis de malheur qui ont exactement les mêmes... les mêmes fantômes, les mêmes démons.
Pardon ? La même obsession.
La même obsession, absolument. Voilà, c'est ça.
Ils ont une obsession de vengeance.
Voilà.
C'est-à-dire, Zohar, lui, il a des raisons très concrètes. Hein, concrètes. C'est-à-dire, c'est à cause de ces nazis-là qu'il a été expulsé d'Égypte, mais surtout, ce Dieter Böhm a été l'assassin de sa mère initiatique, on peut dire. Hein. Cette maîtresse des congrégations soufis, c'est la mère initiatique de Zohar. Donc, il est foudrage, il veut la peau de Dieter Böhm. Et puis, il rencontre à Paris des gens qui sont, vous savez, c'est les rescapés de la Shoah ou les rescapés des camps de concentration qui n'étaient pas forcément des Juifs. Hein. Il y avait aussi des résistants dans les camps de concentration. Et il rencontre des gens comme ça qui, dans les années 50, étaient... Il y en avait beaucoup hein, en France. Et certains étaient extrêmement animés par cette rage de vengeance. Hein. Il y a eu des vengeurs. Hein. Ça a duré quelques années après-guerre. On a retrouvé des cadavres. On savait qu'il y avait des vengeurs qui se baladaient. On ne les a pas identifiés. D'autant qu'à ce moment-là, la police était en déconfiture. On ne l'avait pas encore reconstituée, la police, puisque la plupart des policiers étaient dans la collaboration et qu'ils avaient été destitués, en fait. Donc, je parle des officiers supérieurs de la police, en fait. Hein. Et donc, on attendait de refaire une police convenable. Donc, il y a eu un flottement pendant les 3, 4, 5 années qui ont suivi la fin de la guerre. Et pendant ce flottement, il y a eu des vengeurs qui ont essayé de régler leur compte comme ils ont pu, en fait.
Oui.
C'est cela que rencontre Zohar après-guerre en France.
Voilà. Aaron et Lucien, ces deux,
Aaron et Lucien,
deux compagnons.
Et Paulette.
Et Paulette, tout à fait.
Et Paulette.
Donc c'est ça, ce livre, c'est à la fois... Une fresque historique sur le temps de l'Égypte en 1952, sur effectivement l'après-guerre en France, à Paris. Et c'est intéressant de le signaler, il y a un troisième temps également, qui est l'après-Zohar, et c'est aussi une thématique qui me semble importante de votre livre, il est question de la transmission, puisqu'il est également question du fils de Zohar, d'ailleurs, qui parfois semble être le narrateur, en fait, qui apprend par cette prostituée italienne, donc Livia, toutes les informations en fait, qu'il n'a jamais connues, parce qu'il n'a jamais connu son père. Et il me semblait, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que ça posait aussi la question de la transmission, en fait, qui est une question quand même fondamentale dans la culture juive, et surtout d'un personnage, Zohar, qui raconte beaucoup d'histoires, mais qui ne dit rien.
Bon, alors, c'est joli, c'est la façon dont vous le voyez, j'aime bien. C'était pas, en tout cas, mon intention. Hein. Mon intention, elle était plus sur l'initiation, c'est-à-dire que Le père a été initié, c'est Zohar, le père. Le livre commence sur l'enterrement de cet homme, Zohar, le père, et le fils assiste à cet enterrement. Et c'est un enterrement singulier, parce que ça se passe à Pantin. C'est un enterrement juif, et puis il y a des musiciens arabes, il y a des pleureuses, il y a des gens qui... on comprend rien. Qu'est-ce que c'est que cet enterrement? Ça ressemble pas du tout à un enterrement. Et donc, il est très étonné, le fils. Et il a seulement pour guide un vieil homme égyptien qui lui dit « Il faut que tu dises la prière pour ton père ». C'est comme ça que commence le livre. C'est-à-dire que le père tenait à une chose, c'est que le fils soit initié comme lui, il l'avait été, quoi. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses, moi. Hein. Parfois, les livres vous échappent, oui. Hein, vous savez. Bon, en tout cas, c'est ça que j'ai vu, moi, que c'est que je souhaitais transmettre, en tout cas mettre dans le livre. Hein. Et il a été initié, non pas à des choses juives, hein. Il a été initié à des choses égyptiennes. Et ça, c'est vous savez, c'est des choses qui... C'est des idées qui souvent habitent les immigrés, les gens qui ont immigré. C'est-à-dire, on est parti, d'accord, on refait sa vie, d'accord, mais nos enfants ne nous ressembleront pas parce qu'ils n'auront pas été fabriqués de la même manière que nous. Ils n'ont pas été initiés aux mêmes choses que nous avons connues. Comment est-ce qu'on peut contraindre ces enfants, contraindre, pas par la force, hein, je veux dire contraindre intellectuellement nos enfants à retourner de là où on vient pour prendre les choses importantes qui nous ont fabriquées. C'est ça l'idée, hein. C'était de cette initiation-là qu'il s'agissait. Mais j'aime bien votre idée aussi, hein.
Oui, c'est aussi une sorte de transmission d'une mémoire, d'une culture. Et là, justement, on peut en venir à cette, peut-être aussi à une dimension mystique qui est assez présente, à laquelle moi, j'ai été particulièrement sensible, qui est présente dans votre roman, qui avait été aussi présente dans votre roman précédent, L'Évangile selon Youri. Est-ce que, parce qu'en plus, c'est vrai que donc c'est une fresque historique, il y a de l'action, il y a des événements, mais il y a aussi beaucoup de passages, effectivement, de chants, de prière. Vous parliez tout à l'heure donc de la maîtresse des esprits oui. Qui effectivement s'est fait assassiner au Caire. Ça, vous le retranscrivez, je trouve, extrêmement bien. Zohar, il faut le préciser aussi. Zohar, ça veut dire splendeur. Et donc splendeur de la splendeur. Et le livre du Zohar, c'est quand même le livre central de la Kabbale.
C'est ça.
Alors. Là, j'ai envie de vous poser peut-être une question un peu plus personnelle. Je voudrais vous interroger sur votre relation à la mystique.
À la mystique ?
Oui, et justement à la mystique juive ou autre. Est-ce que ça occupe une place importante dans vos... Parce qu'il me semble que ça occupe une place importante dans vos livres.
C'est sur le mot mystique que je ne vais pas être d'accord, quoi. Je ne suis pas mystique du tout, hein. Simplement... Je sais l'importance des esprits. Alors, est-ce que c'est ça que vous appelez mystique ?
Ça peut. Ça peut être ça.
Ça peut. Bon, donc, je sais l'importance des esprits. Je les ai vus. J'ai vu les rituels qui sont des rituels de soins. J'ai vu où on appelle les esprits et les esprits descendent et possèdent les gens qui font appel à eux. Où on fait on leur offre des sacrifices animaux, etc. J'ai vu ça. J'ai vu quel bien ça faisait aux êtres humains. Et donc, je sais l'importance de ces choses-là dans plein d'endroits au monde. Hein. Donc, je l'ai vu beaucoup en Afrique, au Sénégal, au Mali. Mais je l'ai vu aussi à l'île de la Réunion. J'ai vu ça au Brésil aussi. Il y a des choses comme ça qu'on retrouve un peu partout dans le monde avec des formes différentes, bien entendu, à chaque fois, avec des noms, des esprits différents. Mais en tout cas, le fait qu'un être humain se sorte de son corps et offre son corps et sa voix à un esprit, temporairement, lui prête en quelque sorte son corps et sa voix, et qu'après l'être humain en tire un bénéfice, cette chose-là, je trouve ça génial, quoi. Ça me fascine, et c'est un des éléments que j'ai voulu mettre en scène dans ce livre. Et c'est vrai qu'il y avait des congrégations de femmes en Égypte qui faisaient ça de manière régulière. Mais il y en avait beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que chaque quartier avait la sienne de congrégation. C'est pour ça que celle dont je parle dans le livre, dont j'ai inventé le nom, hein, c'est la Société des Belles Personnes. C'est un nom impossible hein, pour une congrégation pareille. Hein. Mais celle-là, par exemple, elle est celle de Babelzoué, là. C'est-à-dire la porte Zoué, là, comme on dit la porte de Clichy, la porte autour du Caire, il y avait des portes aussi, comme autour de Paris, si vous voulez. Et donc, c'est le quartier de Babelzoué, là. Ce quartier-là, il avait sa congrégation. Donc, c'est à ça que Zohar a été initié. C'est à ça que moi, je n'ai pas été initié, mais j'ai vu ces choses-là quand j'étais enfant. Et j'ai une attirance pour ces choses-là parce que je les ai vues adultes en tant que professionnel, clinicien. Vous disiez que j'étais ethnopsychiatre. C'est vrai, j'ai vu ça aussi dans mon travail clinique et je sais l'importance de ces choses-là. Et surtout, c'était aussi un... attirer l'attention, mais à qui, je ne sais pas, mais enfin, en Égypte, ces choses-là ont quasiment totalement disparu. Les congrégations, les confréries de Zahar, ça s'appelle des confréries de Zahar, ont quasiment totalement disparu, sont devenues clandestines, cachées, pour participer à une de ces confréries. Aujourd'hui, vous pouvez toujours courir, hein, il faut connaître tous les recoins du Caire pour y parvenir, quoi. Parce que les islamistes, parce que l'islam a totalement changé de forme aujourd'hui en Égypte. Hein. Et toutes ces choses-là sont augurées par l'arrivée des frères musulmans en 1928, que j'évoque aussi dans le livre.
Tout à fait.
Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis.
C'est très clair.
Donc mystique, j'achète pas le mot, mais j'achète peut-être la chose, quoi.
Oui, oui.
C'est-à-dire... l'intérêt pour le fait qu'un être humain peut prêter son corps à un invisible.
Oui. C'est aussi que vous peignez très très bien les ambiances de la culture juive. Je pense notamment, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est les titres de chapitres. À chaque fois, le titre d'un chapitre, c'est un proverbe arabe. Et j'ai pas arrêté de poser la question si c'était des vrais proverbes ou si c'est vous qui les inventiez. Et il y a des proverbes qui sont très très beaux. Il faudrait que j'en avais noté. Alors, est-ce que ce sont des proverbes de votre invention ou est-ce que ce sont des vrais proverbes arabes?
Les trois quarts sont des vrais proverbes.
Ah, d'accord.
Hein. Et il y en a quelques-uns qui sont inventés, mais ils ne sont pas tous arabes. Hein.
Oui, enfin je dis arabe.
À la fin, il y a plein de proverbes yiddish.
Oui, oui, c'est vrai.
Parce que,
tout à fait.
Parce que c'est le moment où entrent en scène les Juifs d'Europe que rencontre Zohar à Paris. Donc, oui. À ce moment-là, ce sont plutôt des proverbes yiddish. Mais je dirais que les trois quarts des proverbes sont des véritables proverbes.
Oui.
Et que je connais par mes parents, en fait, qui me racontaient des choses comme ça. Ma mère a écrit un article dans sa vie et qui était justement un article sur les proverbes arabes. Et donc, j'ai une collection de proverbes comme ça.
D'accord.
Qui vient de là, oui.
Pour oublier tes ennuis, porte des chaussures qui te serrent les pieds, par exemple.
Ça, c'est un proverbe ashkénaze. Ça, c'est un proverbe ashkénaze qui dit...
C'est plein de sagesse. Si tu veux...
Bah oui, c'est de la sagesse. Si tu veux pas penser tout le temps à tes ennuis, bah, vaut mieux que tu ailles aux pieds, quoi.
Voilà. Ouais. Ou d'autres qui sont un plus poétique, savez-vous que le bien qu'on accomplit est un trésor caché pour l'avenir?
Ça, c'est un proverbe égyptien célèbre.
D'accord.
Et il n'est pas... Il n'a pas une très forte puissance en français, mais si vous le dites en arabe, ça fait un effet, quoi.
Là, j'aurais du mal.
Oui, non, mais moi aussi. Non, mais je veux dire... Non, je saurais le dire, mais, oui. Mais je ne saurais pas retransmettre cet bien effet,
sûr.
Quoi.
Bien sûr. Alors effectivement, donc comme je disais, je crois que vous avez écrit 7 romans. 12, pardon. J'étais loin du compte.
C'est pas grave.
Excusez-moi, j'ai dû en oublier certains. On retrouve, comme je disais en fait au début, des thématiques chères aussi à l'ethnopsychiatre que vous êtes. Et je voudrais savoir si la forme du roman par rapport à la forme de l'essai. Est-ce que justement la littérature vous permet de dire autre chose que vos essais d'ethnopsychiatre ne vous donnaient pas la possibilité de dire? Vous êtes sur des thématiques qui sont l'exil, la migration, qui sont quand même des thématiques importantes dans votre œuvre. Est-ce que le fait d'écrire des romans, comment voyez-vous ça par rapport aux essais que vous avez pu ou aux articles plus scientifiques que vous écriviez auparavant, que vous écrivez même peut-être encore?
Vous êtes de Bordeaux?
Oui.
Parce que au bout d'un certain moment, l'accent revient.
Ah, alors je suis de Bayonne.
Ah, c'est ça. Hein.
Alors j'ai peut-être un petit accent basque caché.
Bah, oui, c'est ça, ça revient à un certain
derrière.
Moment.
Ah bon, oui, bon, ben voilà. Excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de problème.
Alors, donc je disais rien du tout, j'essayais de répondre à votre question. Le premier roman que j'ai écrit, c'était en 1993, et c'était un roman policier. Et c'était, il y avait une raison à cela, c'est que j'écrivais sur mes patients et il y avait toutes sortes de choses que je ne pouvais pas dire, qui étaient impossibles de dire, de raconter, parce que d'abord parce que les gens n'y croient pas, en particulier toutes ces affaires que vous dites mystiques, je ne sais pas comment les dire moi, mais toutes ces affaires surnaturelles, ou je ne sais pas comment on peut dire, hein. Eh bien, toutes ces affaires-là, on ne peut pas les raconter dans des textes sérieux. Les gens n'y croient pas, ils disent « mais c'est pas comme ça qu'on raconte ces choses-là ». Et donc, il y avait un reste. Parce que, vous savez, ça fait 45 ans que je m'occupe de patients, tous, toujours migrants. Je ne me suis occupé que des migrants, toute ma vie professionnelle, si vous voulez. Et donc, c'était constamment... Ces affaires-là, c'était constant. Et je ne pouvais pas en parler à mes pères, en fait. Hein. Et donc, j'ai décidé de le raconter à travers un roman, d'abord. En me moquant un peu de mes pères, d'ailleurs, parce que dans ce roman, tous les policiers avaient les noms des membres de l'Institut de psychanalyse. Donc, eux, c'était les flics, quoi. Et les personnages du roman, c'était ceux qui faisaient la vie, quoi. Eh ben c'était les Africains. Ce roman s'appelle Sarah Cabot et il avait eu une certaine audience à l'époque. Il y a même eu un film qui avait été tiré de ce roman. Donc, c'est depuis ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on en dit beaucoup plus. On peut aller beaucoup plus loin dans l'approfondissement du fonctionnement psychologique de quelqu'un dans un roman que dans un essai. Ça n'a pas la même fonction en même temps. Hein.
Tout à fait.
Mais si vous voulez décrire dans le détail, en le fignolant, le fonctionnement psychologique de quelqu'un, il n'y a rien de mieux qu'un roman, quoi. On ne peut pas faire ça autrement, quoi. Donc, oui, vous avez raison. C'est pour ça que je me suis un peu commis dans le roman. Et de plus en plus, en fait.
Et vous allez continuer?
Oui, j'ai continué.
Ah, très bien, voilà, qui est une très, très bonne nouvelle.
Vous me demandez si je vais continuer.
Oui, si vous allez en écrire d'autres.
Oh, bah, si je suis encore vivant.
Bah, oui. Bien sûr, bien sûr.
Bah, oui. Merci. Par les temps qui courent, on ne sait pas. Hein.
Merci beaucoup, Toby Nathan. Et, d'avoir...
La prochaine fois, j'espère qu'on pourra le faire à Bordeaux.
Ah, bah, ce sera avec grand plaisir pour votre prochain roman. Et nous avons hâte de lire d'autres pages. Encore.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Merci de votre accueil. Au revoir.